L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être là. Bon week-end. À suivre dans quelques minutes, on retrouvera notre World Tour. On va parler du marché du drone en Israël. Et puis on découvrira The Refiners avec Géraldine Lemeur qui sera avec nous, qui est la cofondatrice donc de ce concept. Et puis juste après, ce sera la rédaction de Zeronet.com bien sûr. Notre passion selon Sanet dans l'immédiat avec Lila Megrawa et notre invité. Lila, la semaine dernière, on a tenté d'expliquer ce qu'était le biohacking dans l'atelier
oui,
numérique.
Mais oui, tout à fait. Et là, on va s'essayer.
Alors, c'est pas qu'on n'a pas réussi, mais disons qu'on va essayer d'y aller un petit peu plus profondément cette fois-ci.
C'est ça. En fait, on a commencé par les applications concrètes.
Hein, voilà.
Et là, on va commencer par le début, à savoir revenir sur le concept en lui-même, à l'aune d'un exemple, un lieu, à savoir la paillasse. Donc, pour en parler, on a le plaisir d'avoir le président de la paillasse, Thomas Landrin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Thomas Landrin, comme je disais, vous êtes président de la paillasse, qui est un biohacker space qui a été fondé en 2011.
C'est ça.
Alors, comme disait François, on a tenté de donner une définition il y a de cela deux semaines, biohacker space, biohacking. Alors, ma définition, c'était plus ou moins, c'était hacker le vivant. Nos invités nous avaient dit le biohacking pour eux, c'est sortir de la biologie traditionnelle pour générer de l'innovation. Quelle serait votre définition à vous, Thomas Landrin?
Alors, je pense qu'elle semble toute vraie. Avant tout, l'idée du biohacking, c'est une philosophie. C'est pas forcément un but en particulier. C'est avant tout se réapproprier en fait ce que nous offre le vivant. Voilà. Et donc là-dedans, on va y trouver la biologie, mais pas que. C'est dire que à mon avis, la science et les technologies qui vont avec le vivant, eh bien, celles-ci sont beaucoup trop importantes pour rester dans les mains des professionnels. Et donc d'aller chercher justement à créer des espaces, des situations où ce sont du coup des non-biologistes qui vont pouvoir aussi s'approprier ces outils-là, les mélanger avec leur propre intuition et ainsi créer des nouvelles choses.
Donc pour situer, où se situe la paillasse dans ce mouvement du biohacking, ce mouvement français, c'est quoi? C'est un lieu d'innovation collaborative qui va réunir à la fois chercheurs, professionnels, freelance, start-upers?
C'est en effet c'est un peu un ovni. C'est-à-dire que la base, la paillasse a été créée pour essayer d'imaginer ce que pouvait être un laboratoire au XXIe siècle, justement à l'ère de cette fameuse intelligence collective. Et c'était donc il y a 5 ans officiellement, il y a maintenant presque 7 officieusement. On a monté cette association pour proposer un lieu entièrement équipé. Mmh. À l'époque, c'était pas sur Paris, c'était à Vitry-sur-Seine. C'était même au sein d'un squat de banlieue parisienne, littéralement dans une cave, où on a construit un laboratoire de biotech entièrement équipé, et ce pour 0€, en s'appuyant uniquement sur les récupérations de matériel de laboratoire qui était mis de côté. Et dans ce petit espace qui faisait à peu près 50 mètres carrés, eh bien, on a tout simplement invité la communauté à se joindre à nous et à essayer d'imaginer en fait ce qu'on pouvait faire d'un laboratoire comme celui-ci aujourd'hui. Et la plus grande surprise, c'est que ce sont pas des biologistes qui sont arrivés, principalement c'est des non-biologistes, des personnes qui avaient toujours voulu faire de la biologie mais qui n'avaient jamais plu. Donc des designers, des ingénieurs, des artistes, des philosophes, des sociologues, etc. Et d'un seul coup, dans ce grand mélange, on a l'impression d'avoir toutes les compétences possibles, imaginables. C'est un sentiment très positif qui est arrivé, qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Voilà. Et de là est né en fait, en à peu près 3 ans, une quinzaine de projets avec une cinquantaine de collaborateurs, dont des tests génétiques low cost par exemple pour savoir ce qu'on a dans son assiette. Mmh. On a travaillé sur des équipements de laboratoire low cost en open source pour permettre à plus de personnes justement et bien de faire du laboratoire. On a même été quand même symbolique, on a été financé par la NASA sur un appel à projet auquel on a répondu pour faire ce qu'on appelle un bioréacteur low cost open source. Un bioréacteur, c'est une machine un peu complexe qui vaut normalement très cher, on va mm-hmm. parler plutôt de 20 à 50 000 euros, qui nous sert à manipuler l'environnement de croissance de micro-organismes pour par exemple faire de la bioproduction. Voilà, donc c'est une bioproduction qui nous sert à fabriquer des biomatériaux qui ont un avenir très très brillant devant eux. Mais voilà, si on veut nous se réapproprier cette possibilité de faire des biomatériaux, il nous fallait un bioréacteur réacteur qui soit pas cher, et on l'a fabriqué nous-mêmes, et c'est grâce à la NASA. Alors la NASA savait pas qu'on était dans un squat à l'époque, évidemment, mais voilà. Et donc c'est pas le seul exemple. On a aussi travaillé par exemple avec des ingénieurs de chez Sony sur de l'électronique biodégradable. Donc on est parvenu à faire un senseur thermique entièrement biodégradable. On a fait immerger la première encre qu'on pouvait faire pousser soi-même grâce à des bactéries, qui par la suite est devenue une start-up qui s'appelle Pili, que vous avez reçue d'ailleurs la semaine dernière. Et puis voilà, c'est une quinzaine de projets à peu près en 3 ans. Et puis à un moment donné, on pense qu'on est arrivé à une conclusion, que c'est qu'on avait réussi à créer un environnement de travail extrêmement créatif et productif, qui ne valait pratiquement rien, parce que tout le monde était là gratuitement. C'était un vrai squat, on payait pas le loyer, on était littéralement branché sur le réseau de la RATP pour trouver notre électricité. C'était assez hors la loi, mais voilà, cette zone finalement entre guillemets à l'extérieur, on va dire, des régulations traditionnelles qui offre un cadre nécessaire dans certains cas, pour nous en fait, dans cet espace de créativité, d'un seul coup tout était permis et un nouveau modèle a émergé.
Est-ce que vous diriez que ça correspondrait à de la disruption de la recherche scientifique? Est-ce à dire que tout le monde peut être chercheur?
Alors, c'est clairement, il y a un enjeu de disrupter, en effet, le modèle actuel de la recherche, notre manière de produire du savoir scientifique et l'utiliser pour produire, en fait, de la technologie qui serve à l'humanité dans le meilleur de sens possible. Maintenant, dire que...
La disruption, enfin, est-ce que tout le monde peut demain être chercheur?
C'était... Non, je dirais que je pense pas que demain tout le monde peut être chercheur. Cependant,
en s'alliant,
beaucoup de personnes peuvent devenir chercheurs sans être passées en fait par le milieu académique. Et je pense que c'est important de comprendre en fait que faire de la recherche, ça nécessite un certain niveau de compétence.
Bien sûr.
Maintenant, ces niveaux de compétence, ils sont accessibles à beaucoup de personnes. C'est comme dire demain, vous pouvez être codeur, développeur uniquement si vous avez fait une thèse de doctorat en fait en informatique. C'est faux. Vous pouvez en fait apprendre à coder en l'espace d'un an et devenir totalement autonome et même devenir professionnel et trouver un nouveau
métier. Sans même avoir de diplôme finalement.
Exactement. Voilà. Et ben, c'est la même chose, en fait, avec les technologies, la biologie en particulier. Si vous prenez le même effort que vous mettez à apprendre à faire du code, apprendre à faire la biologie, par exemple, vous pouvez faire des miracles.
D'ailleurs, en mars dernier, une cinquantaine, il me semble, de sommités du monde scientifique ont signé une tribune en joignant à une science ouverte à tous. Ça va également tout à fait dans cette mouvance.
Il y a quand même aujourd'hui une tendance globale qui va vers une ouverture de la science et donc du milieu académique. On se rend compte, par exemple, ça fait certains titres de journaux, que l'achat ne serait-ce que même de l'information scientifique dans les journaux scientifiques extrêmement coûteuse. Les universités françaises dépensent des millions juste pour s'abonner à l'ensemble des journaux scientifiques existants sur la planète, ce qui est un comble parce que c'est des données qui sont elles-mêmes financées par les instituts publics. Voilà. Donc, il y a un enjeu, en effet, de faire ce qu'on appelle de l'open access, de l'accès libre, ouvert, justement, à ces données-là, afin de permettre une meilleure répartition des chances, en fait, pour les laboratoires de faire leur recherche. Mais aller au-delà de ça, c'est-à-dire que permettre une plus grande transparence sur la manière dont les recherches sont réalisées. Et pour vous donner un exemple en quoi ceci est fondamental pour l'avenir, vous prenez toutes les recherches biomédicales, des ce qu'on appelle des méta-études qui ont regardé en fait les correspondances entre les différentes études biomédicales, ont montré que c'est plus de 70% d'entre elles qui sont considérées non reproductibles, c'est-à-dire qui présentent des résultats contradictoires dans lesquels on peut pas trancher. Et ça veut dire quoi? C'est que ces 70% d'études, elles sont inutilisables. C'est extrêmement grave et c'est entre autres dû au fait que à ce manque de transparence et qu'il y a trop de biais entre les laboratoires qui ne peuvent pas s'expliquer. Et ça, c'est entre autres dû au fait qu'on libère pas toutes les données, on libère pas justement toutes les procédures qui sont réalisées en interne. Et ce qu'on est en train de réaliser, entre autres, il y a bien d'autres aujourd'hui dans le monde qui se battent justement pour une science plus ouverte. Et bien, justement, c'est pour une libéralisation, pour libérer en fait le travail de la recherche, de la documentation et de la construction en fait justement de ces savoirs.
Alors, à la PAIS, vous êtes soutenu également par des entreprises hein, qui soutiennent votre démarche de recherche scientifique ouverte. Il y a notamment l'exemple du laboratoire pharmaceutique Roche. Mmh. Vous avez lancé le projet Epidemium, qui va d'ailleurs trouver sa fin de challenge, du moins aujourd'hui, à 18h. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce projet?
Alors, l'enjeu d'Epidemium, lorsqu'on s'est trouvé avec Roche avait besoin d'explorer de nouvelles manières de produire de l'information intéressante sur le cancer. C'est son grand sujet. Et nous, on cherchait en fait une manière de traduire une intuition qu'on avait que la recherche pouvait se faire différemment, y compris en dehors du laboratoire, de manière distribuée. Et donc, on a décidé de collaborer ensemble. L'enjeu d'Epidemium, c'est de montrer qu'il est possible de produire des études, des recherches scientifiques de qualité, donc avec des vrais résultats scientifiques, en s'appuyant uniquement sur des personnes qu'on va mobiliser de la communauté qui travaille à temps partiel, et ce, en fait, de manière totalement bénévole. Et puis, même, au final, ça aurait été une expérience qui a duré 6 mois. Mmh. En effet, qui touche sa fin, la finale, à 18h à la PAIS, où les 8 projets finalistes ont été sélectionnés. On aura mobilisé plus de 300 personnes. Sur juste la région Île-de-France, ce qui est considérable sur un sujet qui est l'épidémiologie du cancer, donc un sujet hautement technique, où on parle de data science, de big data, de cancérologie, etc. C'est un tiers d'étudiants, 2/3 de professionnels, donc beaucoup en fait de professionnels de santé par exemple, mais aussi des personnes qui sont pas dans la santé. Par exemple, des astrophysiciens, des data scientists qui travaillent dans des banques, qui vont en fait utiliser leurs compétences pendant leur temps libre pour contribuer en fait à un effort commun. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que faut bien préciser, le cadre de ces recherches est totalement ouverte. Tout est documenté, comme sur un wiki, c'est le Wikipédia de la science. Il y a aucune exclusivité pour les partenaires. L'enjeu, justement, ici, c'est de co-construire ensemble la science de demain. Voilà. Et donc, de répondre à un enjeu ici qui est fondamental, qui est mieux comprendre le cancer, et ainsi de mobiliser ceux qui ont la capacité de le faire, c'est-à-dire pas uniquement les chercheurs.
Eh ben c'est passionnant.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Thomas Landrin. Je rappelle, vous êtes président de la PAIS, comme dirait Gilles Babinet, le MIT de l'open source.
Merci beaucoup.
Merci.
On revient dans un instant à la suite de cet atelier numérique. Ce sera dans une minute avec notre World Tour. On ira en Israël et puis notre French Tech Tour. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier de numérique sur BFM Business. Dans un instant, on découvrira l'accélérateur de pépites françaises aux US. The Refiners, les amis. Et oui, avec une invitée de marque, Géraldine Lemaire sera avec nous. Mais auparavant, notre World Tour. On va évoquer le marché du drone en Israël avec notre invité, avec vous, Aurore Géraud.
Oui, et nous sommes en compagnie.
Et des drones, plus précisément.
Et des drones, et de l'évolution du drone même.
En plus.
Alors nous sommes avec David Harari, qui est un ancien responsable du programme national israélien du développement des systèmes d'avions sans pilote. Docteur Harari, bonjour.
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 Alors, quelles sont les raisons, quels ont été les éléments favorables qui ont fait que le drone a été créé en Israël?
Bon, d'accord, je voudrais quand même expliquer qu'un système d'avion sans pilote a existé dans tous les temps. Ce n'est pas un jour en Israël, on s'est réveillé et on s'est dit on va faire un avion sans pilote. L'avion sans pilote existait. La seule chose qu'Israël a fait, c'est que à cause des circonstances géopolitiques et des conflits que nous avions à nos frontières, il était important d'avoir rapidement un système de renseignement en temps réel. Donc, nous avons développé donc le premier système qui est devenu opérationnel. Et la contribution, en fait, de l'État d'Israël a été que l'État d'Israël a été le premier pays à développer un système adapté au champ de bataille et surtout qui a su modifier sa doctrine militaire pour mieux utiliser toute la valeur ajoutée d'un tel système de renseignement. Il faut que vous sachiez qu'à la même période, les Américains essayaient de faire un système équivalent, mais pour des raisons qui leur sont propres, ils ont échoué. Et c'est pour ça que les deux premiers systèmes de première génération chez les Américains ont été achetés en Israël.
Et actuellement, face au marché du drone qui est ultra concurrentiel et notamment aux États-Unis, où on en est en Israël?
Eh bien, écoutez. Vous pouvez comprendre qu'Israël continuera à développer de tels systèmes dans deux directions. La première, d'abord, pour développer de nouvelles configurations qui seront adaptées à différentes missions. Jusqu'à maintenant, la majorité des systèmes utilisent des avions à configuration que vous connaissez, c'est-à-dire à aile fixe. Il y a d'autres configurations aéronautiques qui sont étudiées, par exemple des hélicoptères, de gros hélicoptères qui seraient aussi pilotés à distance. Des hélicoptères où le rotor ne sera pas extérieur comme les hélicoptères actuels, mais qui seront introduits dans le fuselage. En fait, il existe aujourd'hui en Israël un hélicoptère où le rotor est dans le fuselage, oui. Ce qui fait que de l'extérieur, vous ne le voyez pas. Et c'est pour ça que on dit que c'est une voiture volante. Mais en fait, c'est pas une voiture volante, c'est un hélicoptère. On ne voit pas les choses. Donc, si vous voulez, ces nouvelles configurations vont continuer à être développées. Puis après, les différentes sources d'énergie seront utilisées, que ce soit le solaire, l'électrique ou d'autres. Et enfin, ce qui est le plus important, je crois, c'est l'adaptation de nouvelles solutions aux nouveaux besoins qui vont se faire, que ce soit dans le domaine civil ou que ce soit dans le domaine militaire. Bien que le domaine civil encore n'a pas évolué comme j'aurais pensé qu'il aurait évolué.
C'est-à-dire ?
Eh bien, écoutez, le problème du domaine civil est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer. Alors, effectivement, depuis, disons, moins d'une dizaine d'années, on utilise des petits avions, quadrimoteurs, etc., pour faire des petites missions de surveillance. Mais en fait, c'est pas ça le marché, parce que le marché n'est pas là. Le marché va se développer lorsqu'on aura résolu, il me semble, deux problèmes importants. Un, le problème de la certification de l'avion par l'aviation civile du pays qui va l'utiliser. Ceci est très important parce que c'est un avion qui vole et il faudra que la configuration que l'on va, ou l'aéronef, d'une manière générale, qu'elle soit à aile fixe ou hélicoptère, soit adapté à la régulation du pays. Ça, c'est un premier point. C'est pas toujours facile parce que le pilote se trouve à une distance de 100 km, 200 km de la cabine, je dirais, par rapport à un avion piloté avec pilote. Mais le deuxième point qui est aussi important, c'est il faudrait que les clients civils potentiels qui peuvent utiliser de tels systèmes reconnaissent la valeur ajoutée du système, qu'ils voient que ce système-là va leur apporter des bénéfices, une valeur ajoutée financière, puisque les sociétés travaillent sur ça seulement, pour justement les systèmes. Ça commence à évoluer, ça prend du temps, ça ne sera pas pour demain, ça sera certainement pour après-demain.
Eh bien, merci beaucoup, David.
Merci.
Je vous en prie.
Merci. À très bientôt.
Voilà, David Harari, donc ingénieur franco-israélien et inventeur du drone militaire.
Oui.
Voilà. Et après les drones en Israël, direction eh bien la Silicon Valley, San Francisco, pour notre French Tech Tour Aurore Géraud, on va parler de The Refiners aujourd'hui.
Oui, et nous sommes en compagnie de Géraldine Lemeur, qui est donc cofondatrice de The Refiners.
On dirait presque le titre d'une bonne série.
Hein, oui, c'est vrai.
Finalement.
Mais également du web, donc et entrepreneur, voilà. Donc on voudrait parler un petit peu de Refiners. C'est un programme d'accélération.
C'est un programme d'accélération à destination des sociétés étrangères qui veulent devenir globales et s'installer dans la vallée.
Alors, c'est quoi exactement comme programme? Quelles sont ses finalités?
Alors, les finalités, c'est un accélérateur cross-border, en bon français, transfrontalier. L'idée, c'est de dire qu'on peut tout à fait avoir des assets et des équipes en France, en Europe et à l'étranger, et puis développer d'autres choses aux États-Unis pour devenir global. On pense qu'il n'y a plus d'international et qu'il faut devenir global dès le départ, dans le digital, hein, bien entendu.
Donc, c'est des startups early stage?
C'est des startups early stage, mais pas seulement, mais effectivement.
Alors, on peut expliquer ce que c'est early stage?
Pour tous ceux qui
n'ont pas votre vocabulaire au top, franchement. Alors, qui débute, en fait, c'est ça?
Qui débute au tout début. Early stage, c'est les premiers pas, c'est le début d'une aventure entrepreneuriale. On ces termes de ideation, donc l'avoir l'idée, après la validation, donc la validation de l'idée, et après l'accélération. Donc l'idée, c'est vraiment de récupérer les entrepreneurs et la start-up au moment où ils sont sur une rampe de lancement, d'être une équipe autour d'eux et de faire un peu la checklist pour prendre la bonne trajectoire. On va dire que les investisseurs remplissent le carburant et mettent le fuel, et l'accélérateur va être là pour être le crew, toute l'équipe autour, pour être sûr qu'on peut allumer l'allumage et que la fusée peut être lancée.
On avait reçu Gaëlle Duval il y a pas longtemps sur la French Touch Conference, et la question que je lui avais posée à l'époque, c'était est-ce que envoyer des pépites françaises à l'étranger, c'est pas un peu risqué quand on voit des mouvements comme Reviens Léon?
Or, aujourd'hui, l'idée, c'est pas d'envoyer des pépites françaises à l'étranger. C'est vraiment, pour nous, pour The Refiners, c'est de s'appuyer sur ce qu'on peut avoir déjà en France avec, par exemple, des équipes d'ingénieurs, et développer aux États-Unis d'autres choses. Pourquoi ? Parce que si on prend le cas justement de la tech, il est très difficile de garder des ingénieurs et des talents dans ce domaine-là, de les trouver. Ils coûtent très très cher aux États-Unis. Et en fait, en France, on a des ingénieurs absolument fantastiques. On a des équipes qui peuvent rester ici, qui peuvent grandir de la même façon des deux côtés de l'Atlantique. Par exemple, si on prend le cas de Scality avec Jérôme Leca, c'est tout à fait ce qu'ils ont mis en place et ça fonctionne extrêmement bien. Ils ont levé des fonds aux États-Unis, 150 personnes, je crois, de mémoire encore en France, essentiellement des ingénieurs. Donc, il s'agit pas de faire partir les gens. C'est pas, on va pas réinventer l'eau tiède aux États-Unis. Il s'agit vraiment de savoir où sont les forces et les faiblesses de chacun et de les garder là où elles sont et de le faire grandir ensemble.
Et c'est une forme de formation au modèle américain?
C'est pas une forme de formation, mais je crois que ce qui est important de prendre en compte, c'est le cultural gap, la différence culturelle. Et cette différence culturelle, elle est énorme. Aller travailler aux États-Unis, c'est pas simplement aller travailler en anglais. Et souvent, on perd 15 à 18 mois. On voit les startups qui vont toutes seules, qui perdent 15 à 18 mois pour pouvoir commencer à faire du business et qui perdent du temps sur des choses qui sont pas essentielles au business.
Et du coup, vous les envoyez donc aux US. Est-ce que vous avez l'impression que actuellement en France, il y a quelque chose qui manque pour les aider à vraiment se développer à l'international?
Alors, je pense pas qu'en France ça manque. Au contraire, je pense que la BPI fait un travail absolument extraordinaire sur l'écosystème et qu'il y a une vraie, internationalisation. Je vais y arriver au global, mais en fait, je crois pas vraiment à l'international. Je pense qu'aujourd'hui c'est global, international. J'ouvre un bureau à Paris, puis en Allemagne, puis en Espagne, ça n'existe plus vraiment. On est obligé de penser global, et ça c'est la manière de le faire. C'est d'avoir par exemple un pied en France et un pied aux États-Unis.
Donc du coup, vous parlez de la BPI. Je crois qu'ils investissent à hauteur de 2,4 millions dans cet accélérateur. Qui sont vos autres partenaires?
Alors la BPI investit dans le fonds, donc on a levé un fonds d'investissement et il y a aussi l'accélérateur qui est une autre structure. Et les autres partenaires, c'est à la fois des fonds d'investissement comme Partech, comme Idée Invest, New Fond. C'est des entrepreneurs comme Xavier Niel par exemple en France. Et puis c'est des entrepreneurs américains comme Phil Libin qui avait fondé Evernote, qui est maintenant aussi investisseur aux États-Unis. Donc on a vraiment essayé de regrouper autour de nous à la fois des Français, des Européens et des Américains. Par exemple le parrain de la première promo qui commence le 12 septembre pour 3 mois, et Brian Solis, qui est vraiment un des gourous de l'internet à l'heure actuelle aux US.
Vous êtes cofondatrice de The Refiners avec Carlos Diaz, donc ex-Quarter, et Pierre Gambil, qui est ex-Cast. Pourquoi cette alliance de force? Comment vous vous êtes mis ensemble pour créer ce projet?
Alors en fait, on est 3 entrepreneurs installés depuis longtemps aux États-Unis, et il y a une vraie volonté, et avec tous les mentors aussi, parce qu'on est 3 à la base, mais on a à peu près une centaine de mentors autour de nous, une vraie volonté de redonner à l'écosystème et de faire avancer les choses. Et ça, c'est ce qui a motivé le projet dès le départ, d'aider les startups à se développer.
Et bien
merci
voilà,
beaucoup, Géraldine Lemeur.
Merci beaucoup, Géraldine, d'avoir été avec nous dans l'atelier sur BFM Business. On revient dans un instant. Vous restez là, la rédaction de Zéronet.com dans une minute, bien sûr, avec Eric Le Bourlou, et puis le crash test d'Antoine Cyr pour terminer en beauté cet atelier. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Il est temps maintenant d'aller du côté de la rédaction de Zéronet.com, comme chaque samedi après-midi, avec Eric Le Bourlou, le rédacteur en chef de Zéronet.com. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors Eric, côté actu, cette semaine on va parler smartphone avec un léger rebondissement. Vous savez que c'est un peu comme dans des grandes sagas policières pleines de suspense. On croyait Nokia out sur le marché du smartphone puisque Nokia avait été racheté par Microsoft. Eh bien patatras. Non, Nokia va revenir.
Nokia is back. Retour. Le grand retour de Nokia, ils l'ont annoncé il y a quelques jours sur leur site web. Ils l'ont annoncé même en grande pompe en disant « Vous nous attendiez, on savait que vous attendiez. » Eh bien, ça y est, le moment est arrivé. Nokia revient sur les smartphones et sur les tablettes. D'ailleurs, ils ne vont pas faire que des smartphones, ils feront aussi des tablettes. Et ça, on s'y attendait pas, effectivement, puisque Nokia, c'était les téléphones Nokia avaient été vendus à Microsoft il y a 2 ans.
Les téléphones Nokia bas de gamme restaient chez Nokia. En fait, c'était les smartphones. En fait,
non, ils avaient tout racheté. Ils avaient tout racheté Microsoft, y compris c'est effectivement, et ils avaient même le droit d'utiliser Microsoft cette marque Nokia à la fois sur les smartphones et sur les feature phones, comme on les appelle, les dumb phones ou les petits téléphones d'entrée de gamme. Mais là, c'est fini. En fait, Microsoft a en fait perdu le droit au bout de 2 ans d'utiliser le nom Nokia pour ses smartphones. Ils l'utilisaient déjà plus d'ailleurs. Ils avaient préféré la marque Lumia. Et donc quelques jours après, Nokia a dit ça y est, Microsoft. On a récupéré le droit de notre marque. Notre marque est très célèbre. Tout le monde a eu un jour un Nokia dans sa vie. Et ben, on va en profiter. On revient et on va faire de nouveau des smartphones. Alors, ils ont fait un montage un peu particulier puisqu'ils, les smartphones Nokia, qu'on n'a pas encore vu, évidemment. On ne sait pas encore comment ils seront. Ils seront fabriqués par Foxconn. Foxconn, c'est un gigantesque manufacturier de smartphones qui travaille notamment pour Apple aussi. Mais ils ont aussi créé une nouvelle entreprise qui s'appelle HMD, qui est à quelques encablures de Nokia qui s'occupera de faire du marketing, de distribuer, de créer ses smartphones. Donc voilà, c'est le grand retour de la marque Nokia, en tout cas dans des smartphones du futur. Ils promettent des smartphones très bien conçus, ultra puissants, évidemment, on verra ça lors de nos tests.
Parce que malgré tout, même si Nokia est une marque connue et reconnue, qui a une belle image de marque, il va falloir trouver des petits plus qui font que on aura envie d'acheter un Nokia.
Exactement, il va falloir faire la différence. Et c'est vrai qu'on se rappelle quand même que Nokia, ça a été quand même la grosse dégringolade pendant des années. Mais alors, j'ai oublié de dire quelque chose, ce seront des smartphones sous Android. Parce que, effectivement, Nokia n'avait pas choisi Android avant son rachat par Microsoft, et c'est un peu ce qui a coulé Nokia. Là, voilà, ils prennent un OS que tout le monde connaît bien, qui est aujourd'hui ultra majoritaire.
Ils oublient Symbian,
voilà, exactement, qui avait beaucoup vieilli.
Bon, alors, parallèlement à ça, on va maintenant aller du côté de chez Microsoft. Microsoft qui a annoncé une autre nouvelle, beaucoup moins sympathique. Microsoft tire un trait sur les smartphones.
Alors oui, ou presque. C'est vrai qu'ils tirent un trait. Alors c'est marrant parce que les deux annonces étaient vraiment concomitantes. Donc Microsoft a effectivement annoncé qu'ils revendaient leur activité feature phone, justement tous ces petits téléphones, à une entreprise qui est, en gros, un ersatz, enfin, une entreprise qui a été créée par des gens de Nokia. Donc, vous voyez un petit peu
la magouille.
Pour résumer, ils revendent leur feature phone à, ce qui pourrait être une filiale de Nokia et Foxconn.
Oui. Donc voilà,
on va dire. Et ils arrêtent aussi les smartphones, ce qui au passage va provoquer énormément de licenciements, que ce soit énormément en Finlande aussi, parce que l'activité des smartphones était beaucoup en Finlande. Et surtout ils disent notre activité smartphone telle qu'on la connaissait, c'est-à-dire les Windows Phone Lumia, elle va plus ou moins cesser quoi. Mais Microsoft ne va pas complètement arrêter pour autant la téléphonie mobile. On sait qu'ils préparent quelque chose. Ce qu'ils veulent faire, c'est faire un produit assez unique, d'exception, peut-être un peu plus professionnel, quelque chose qui coûtera sans doute très cher, qui va pas leur faire gagner beaucoup de parts de marché, mais qui sera dans la lignée de ce qu'ils ont fait déjà pour les Surface, les tablettes, ou pour les Surface Book, son PC. Il serait logique que Microsoft fasse un Surface Phone. Alors, il faut pas l'attendre avant l'année prochaine. On va le voir sans doute arriver. Il aura sans doute des spécificités qui feront que ce sera un téléphone, un peu intéressant. Il pourra faire, par exemple, sans doute tourner des applications Windows, etc. Mais effectivement, c'est vraiment réduire le champ par rapport à ce que Microsoft est tenté de faire, mais ils n'y sont pas parvenus. Ils n'ont réussi.
C'est quand même un sacré constat d'échec. C'est-à-dire que Windows Phone va voir ses parts de marché réduites disparaître pratiquement.
Exactement. C'est un très grand constat d'échec. Ils n'ont jamais réussi à faire vraiment décoller leur OS.
Mais ça leur a coûté quoi? 8 milliards, c'est ça?
Ça leur a coûté très cher. Je me souviens plus exactement de la somme, mais c'était un peu une catastrophe industrielle.
Voilà, c'est Satya Nadella qui reprend les affaires en main, on va dire.
Exactement.
Et ça change tout. On reste chez Microsoft avec Windows 10. Vous savez que Windows 10, voilà, des scores d'installation assez importants parce que c'est un OS gratuit.
Oui.
Mais bientôt, il ne le sera plus. Et non. Microsoft se fait un malin plaisir à le rappeler à tous ceux qui n'ont pas encore fait la mise à jour.
Exactement. C'est très important pour Microsoft qu'un maximum de gens passent à Windows 10. Parce qu'ils veulent, séduire les développeurs. Ils veulent qu'il y ait un maximum de gens qui soient connectés sur son store pour que les, à côté de ça, les développeurs créent des applications pour cette plateforme. Et le 29 juillet, à partir du 29 juillet, vous ne pourrez plus passer gratuitement à Windows 10 si vous êtes sous Windows 7 ou Windows 8. Donc, ce que fait Microsoft, c'est qu'il envoie des petits pop-up régulièrement pour vous dire « Hey, on est Windows 10 gratuit. »
Mais comment ça ? Vous n'êtes pas encore passé sous Windows 10 ?
Sauf que tout le monde n'a pas envie de passer sous Windows 10. Il y a des gens qui préfèrent leur Windows 7 pour X raisons.
Parce qu'il y a des gens qui préfèrent leur Windows 8 qu'on nous les présente quand même.
C'est vrai.
Parce que, franchement, j'aimerais bien discuter un peu avec eux.
Vous avez raison. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sous Windows 7
qui
disent, moi je suis très bien comme ça,
voilà.
Ça me va et j'ai pas envie de passer à Windows 10. Le seul problème, c'est que Microsoft va de plus en plus loin pour inciter les gens à passer à Windows 10. Et là, le dernier truc, ça a fait beaucoup polémique sur Internet, puisqu'ils ont tout simplement estimé que si vous connaissez les petites croix rouges dans Windows, là, celles pour fermer les fenêtres, ces petites croix rouges que vous voyez partout dès que vous voulez fermer une fenêtre Windows, ils ont estimé, Microsoft, que fermer la petite croix rouge de ce pop-up qui vous incitait à passer à Windows 10 équivalait à accepter l'installation de Windows 10.
Alors que la croix, c'est toujours non.
Traditionnellement, c'est le refus, je ferme, je n'ai pas envie. Sur cette nouvelle boîte de dialogue, quand vous fermez cette fenêtre, eh bien, Windows 10 s'installe quelques minutes plus tard. Et évidemment, ça va contre l'interface de Windows. Pour annuler l'installation, il faut passer par un tout petit truc qu'on ne voit pas bien. Et ce n'est pas évident. Donc effectivement, ça a provoqué une énorme polémique sur le web, parce que évidemment les gens sont pas ravis de voir ceux qui veulent pas passer Windows 10.
Oui, puis forcer la main, c'est toujours pas très classe.
Alors certains ont même dit que ça s'apparentait à ce que font certains créateurs de malware sur internet, de virus, vous savez, parfois vous voulez cliquer sur une croix mais vous retrouvez quand même sur un autre site. Et certains ont même dit est-ce que Windows 10 ou Microsoft est devenu un fabricant de virus vraiment? Donc on verra bien jusqu'au 29, mais en attendant, faites attention si vous voulez pas passer à Windows 10, de bien ne pas cliquer sur cette croix rouge.
Oui, c'est un peu bizarre.
Et oui.
On va parler de jeux vidéo maintenant avec la sortie d'un jeu qui était très attendu. Un jeu Blizzard, c'est toujours un événement. Il s'agit d'Overwatch qui est disponible depuis quelques jours.
Ouais, c'est un événement, d'autant que c'est le premier FPS de Blizzard et c'est le premier. Ouais, c'est pas tout à fait le premier.
FPS, c'est le first person shooter. Hein, pour tous ceux qui sont pas des spécialistes.
Les jeux tirent à la première personne, tout à fait.
Voilà, un peu la Call of Duty, etc.
Exactement. Et c'est aussi le premier jeu de Blizzard sur console alors c'est disponible sur PC mais aussi sur console de jeu. Et ça, c'est Blizzard a fait beaucoup de jeux PC mais pas de jeux console pour l'instant, sauf à une autre époque. Mais c'est vrai que c'est un jeu très attendu et c'est un jeu qui dès qu'il est sorti, ça a été un petit peu la ruée parce que en fait, c'est un jeu qui en fait il n'y a pas de mode solo si vous voulez, c'est un jeu qui ne se joue qu'en multijoueur. Avec des héros qui sont au nombre de 21 et en fonction du héros que vous allez prendre, vous allez avoir une technique différente à adopter. Il y a différents types de héros, des héros qui attaquent plus, des héros qui défendent plus, des héros qui sont là pour guérir. Donc ça se rapproche en fait d'un jeu qui est à la fois un jeu de tir mais avec une dose de stratégie importante. Et ce jeu-là est intéressant à double titre, donc c'est vrai qu'il est très fun, on a pu l'essayer, c'est très marrant, c'est très addictif surtout, et Blizzard sait faire ça, des jeux qu'on a envie de recommencer, etc. Mais c'est aussi un jeu de compétition. Et c'est ça qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que parce qu'on joue par équipe, j'ai oublié de le préciser, mais on joue à équipe de 5 contre 5, et vous jouez donc, et il faut choisir les héros qui vont bien pour chaque équipe, et avoir une équipe qui soit, on va dire, complète. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que si ce jeu va devenir un des futurs...
Un jeu étalon de l'e-sport.
Du sport électronique, et on sait qu'il y en a déjà quelques-uns, il y a League of Legends, il y a plein de MOBA comme ça, il y a aussi StarCraft, qui est un jeu Blizzard. Mais ils essayent là de s'imposer dans l'e-sport et on va voir ce que ça va donner.
Ça va être une stratégie intéressante.
Et ça va être très intéressant à voir,
On enchaîne maintenant avec l'Adopi. vous le savez, cette disposition de loi qui avait été mise en place il y a quelques années cela pour surveiller les personnes qui pirataient par torrent, etc. On pensait qu'Adopi allait être enterré. C'était d'ailleurs un vœu et une promesse de François Hollande.
C'était une promesse de François Hollande,
lors de sa campagne présidentielle. Eh bien, il n'en sera rien. Adopi persiste et signe.
Exactement, puisque un peu à la surprise générale, elle devait en fait l'Adopi s'arrêter en 2022. Voilà, ça avait été acté à l'Assemblée nationale. Normalement, sa fin était prévue pour 2022, mais à la surprise générale, à la suite d'un vote au Sénat, elle a été sauvée. Donc l'Adopi ne s'arrêtera pas en 2022. Elle continuera éventuellement à vous envoyer des petites lettres pas très gentilles si vous avez malencontreusement oublié de sécuriser votre connexion Internet ou plus exactement pirater des films. Sur les torrents. Bon alors l'Adopi, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle un petit peu autour de nous, certains reçoivent des lettres et puis s'ils disent bon, je m'en fiche, c'est pas grave. Mais il n'en demeure pas moins que ça reste une institution qui peut au final éventuellement coller des procès aux gens, etc. En tout cas, ce qui
se passe,
c'est qu'elle
était un petit peu en veilleuse ces derniers mois.
Elle était effectivement en veilleuse, mais parce qu'en fait, elle ne plaît à personne. À la fois, elle ne plaît pas aux internautes. On nous surveille.
Il y a qu'aux ayants droit qu'elle plaît, je pense.
Mais elle ne même pas encore assez aux ayants droit, parce qu'ils aimeraient, en fait, finalement, il y a plein d'autres techniques de téléchargement aujourd'hui qui ne sont pas surveillées par l'Adopi, sur lesquelles elle ne peut strictement rien faire. Donc finalement,
concept est presque obsolète, en fait.
Voilà. Ouais. À l'heure du téléchargement direct et du streaming, est-ce qu'elle a encore un intérêt? Et a fortiori en 2022, on ne sait pas. Mais voilà.
Peut-être qu'elle évoluera d'ici là aussi.
Elle évoluera peut-être.
Merci beaucoup, Eric.
Merci.
Eric Le Bourlou, rédacteur en chef de 01net.com. On va terminer cet atelier dans un instant avec le crash test d'Antoine Cyr qui sera dédié à Eva Moreno. Vous ne savez pas qui c'est? Eh bien, vous en saurez plus dans un instant. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Eva Moreno. Ça sera le point de départ de ce crash test qu'on va retrouver dans quelques instants sur BFM Business dans cet atelier. Mais auparavant, c'est notre rendez-vous décryptage avec cette semaine Guillaume de Groisse. Et avec vous, Guillaume, on va parler d'e-santé.
Bonjour François, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de e-santé, cette santé connectée qui était à l'honneur cette semaine à la Paris Healthcare Week. Alors, vous ne le savez peut-être pas, cher François, mais j'ai un papa médecin que j'ai vu dans les 10 dernières années passer de phase d'excitation quasi maniaque à l'abattement le plus profond au fur et à mesure des avancées ou reculades sur le dossier médical personnel qui s'appelle maintenant dossier médical partagé. Le projet a officiellement démarré en France en 2004, ce qui était très franchement précurseur. Et si on en croit les chiffres officiels, il y aurait aujourd'hui 500 000 dossiers existants, ce qui est bien peu, pour 714 établissements de santé capables de le créer ou de l'utiliser. Ce qui est intéressant à regarder sur cette période de plus de 10 ans, c'est l'évolution des mentalités. Dans la Silicon Valley, entre 2007 et 2010, plusieurs chercheurs, des start-uppers, des fabricants de matériel et quelques passionnés commencent à parler de « quantified self », d'automesure en français. Le magazine Wired s'en fait largement écho et en 2011, le mouvement est lancé. Des sociétés comme WeSings, qui vient d'être achetée par Nokia, Fitbit ou Jawbone ont rapidement entraîné dans leur sillage d'autres équipementiers historiques comme Garmin ou Polar, suivis par Samsung, Apple et Google. Alors, au-delà du fait que surveiller sa santé en permanence est un réflexe très contemporain, ce qui a fait le succès du Quantified Self, c'est à la fois l'évolution de la technologie, l'hyperconnectivité qui permet que les objets transmettent directement les datas et que de jolies applications vous montrent les résultats de vos efforts, et bien entendu, la baisse des coûts de ce type de capteur. Mais si on laisse de côté les aspects technologiques et économiques, on arrive face à une évolution majeure de la perception du grand public vis-à-vis de la data, ces fameuses données personnelles. Alors que toutes les autorités compétentes essayent de se mettre d'accord sur l'accès aux données, sur la propriété même de ces données, du dossier du patient, son droit à y donner accès ou non, etc., eh bien, pendant ce temps-là, des millions de personnes, juste pour vous donner un chiffre, Fitbit a déjà vendu plus de 20 millions de trackers. Donc, des millions de personnes partagent avec des plateformes privées leurs données personnelles en permanence et y trouvent un intérêt certain. Donc, grâce à Facebook, Twitter et aux réseaux sociaux en général, le grand public est bien plus à l'aise aujourd'hui avec les données personnelles en ligne qu'il pouvait l'être en 2004 par exemple. Et donc, la sécurité des données, l'importance d'une autorité qui garantit et certifie les données est devenue avec le temps et sous la poussière des millennials peut-être pas un sujet inexistant, mais du moins ce n'est plus un frein comme cela pouvait l'être il y a 10 ans. Alors bien entendu, pour l'instant il n'y a pas eu de problème majeur de vol de données, les GAFA et autres n'ont pour l'instant pas franchi les bornes d'une certaine forme d'éthique vis-à-vis de l'utilisation des données de leurs utilisateurs, mais cet enjeu des données de santé est à la fois un enjeu économique, et les assureurs l'ont très bien compris, mais aussi un enjeu politique. Enjeu politique de gouvernance, et puis enjeu politique économico-politique, car toutes ces datas, cette médecine préventive, si elle est bien utilisée et encadrée, va peut-être sauver nos systèmes de solidarité de santé. Alors que va-t-il se passer dans les années à venir? C'est difficile à dire, mais le rôle des médecins, des pharmaciens et des différentes parties prenantes de cet écosystème va être chamboulé comme il ne l'avait pas été depuis longtemps.
Guillaume, merci. Pour terminer cet atelier, notre crash test comme chaque samedi sur BFM Business. Antoine, un crash test dédié donc à Emma Moreno.
Alors Emma Moreno, à ne pas confondre avec Roland Moreno,
bien sûr,
est une femme qui a gagné sa place les réseaux sociaux.
Roland Moreno, qui est quand même l'inventeur de la carte à puce.
Roland Moreno, c'était l'inventeur de la carte à puce et l'auteur de la célèbre théorie du bordel ambiant.
Exactement. Il nous a quittés il y a quelques années.
Exactement.
D'ailleurs.
Et donc Emma Moreno n'a rien à voir avec Roland Moreno, mais elle a quand même gagné sa place à l'âge du digital, alors qu'elle n'a non plus rien à voir avec le digital, et pour cause. Tout commence...
Tout ce suspense là, Antoine.
Tout commence par un tweet paru il y a une dizaine de jours, et qui était un tweet en italien.
Un tweet en italien,
qui disait « Susanna Mucciat-Jones si è spenta a 116 anni in una casa di riposo di Brooklyn ».
Et ça fait 140 caractères.
Oui, ça veut dire que donc cette dame, Susanna Mucciat-Jones, s'est éteinte à 116 ans dans une maison de repos de Brooklyn. Alors pourquoi tant d'Italiens s'intéressent-ils au décès de cette malheureuse personne,
oui.
Enfin finalement assez heureuse quand même, puisqu'elle est décédée à 116 ans dans une maison de repos de
116, c'est pas mal hein, quand même.
116,
hein.
J'ai bien dit 116, hein, pas 107, c'est 116. Eh bien, un autre tweet nous donne la réponse juste après. Il testimone passa ora ad Emma Moreno donna piemontese nata. Anche lei nel 1899. Donc, le témoin passe maintenant à Emma Moreno, femme du Piémont, née aussi dans l'année 1899.
Incroyable. C'est donc la nouvelle personne la plus vieille au monde.
Et la seule personne répertoriée officiellement dans des actes de naissance connus qui soit née au 19e siècle.
Oui, donc là, c'est du concret, c'est-à-dire qu'il y a des preuves, etc.
Voilà. Il reste, c'est probablement pas la seule témoin vivant du 19e siècle. Je veux dire, même dans le monde, par exemple, dans le monde animal, je crois qu'il y a des tortues ou des éléphants. Non, mais qui vivent 200 ans.
Oui, on n'a pas forcément une carte d'identité, quoi.
Non, c'est ça le problème.
Même si on leur pose la question, voilà. Ils pourraient nous mentir. Hein.
Non, mais je crois qu'il y a des tortues qui ont
connu... La tortue, parfois, elle peut être un peu rigolote.
Il y a des tortues qui ont connu Napoléon, je crois.
C'est vrai.
Enfin, c'est une façon de parler.
Oui, d'accord. Bon,
mais des êtres humains, il y en a moins.
Il y en a moins, on est d'accord.
C'est Alphonse Allais qui disait « Plus le temps va passer, moins il y aura de gens qui ont connu l'empereur ».
Ça, c'est clair. Voilà.
Mais allez, à son époque, il en restait encore.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Bon, donc, redevenons sérieux.
Voilà.
Donc, parlons d'abord quelques instants quand même de Susanna Mucciat-Jones.
Voilà. Donc, la précédente.
La précédente qui nous a quitté il y a quelques jours.
116 ans, joli score, quand
elle
même.
Elle est née à 116 ans. Donc, c'est le New York Times online. Rappelons quand même que le New York Times, c'est le journal qui est tellement online que vous accédez aux articles du New York Times de 1934. Online,
c'est incroyable.
C'est-à-dire, c'est un journal. Vous avez la totalité.
Ah oui, tout a été numérisé.
Tout est numérisé et vous avez. Alors, je ne sais pas s'il y a tous les articles, mais il y a énormément d'articles. Moi, qui fais pas mal de travaux sur le cinéma, je peux vous dire que toutes les critiques de films américains
de l'époque.
parus pendant le XXe siècle sont
numérisés,
disponibles.
Ils sont disponibles.
C'est quand même absolument formidable. Mm-hmm. Voilà. Donc, ce fameux New York Times, donc, nous parle de Susanna Mouchat Jones et nous rappelle qu'elle a quand même traversé la Grande Dépression, deux guerres mondiales, et que donc elle a pris sa retraite en 1965. Donc en 1965, tous autour de la table, nous étions soit panés, soit vraiment petits.
Tout petit.
Soit vraiment petitot. Et donc,
la plupart n'étaient pas nés. Nous, on était nés.
Voilà, la plupart n'étaient.
Ah quoi, non, j'étais pas né moi.
J'étais en train de me dire oui.
Mais non, c'est vrai, j'étais pas né.
Moi, j'étais né, mais j'étais quand même pas.
Bah oui, vous étiez un grand adolescent.
Oh non, Antoine,
donc,
bon, qu'est-ce que ça balance quand même dans cette émission.
Oui, ça balance pas mal.
Et alors, ce qui est assez émouvant, c'est un témoignage de la nièce, donc, de cette défunte doyenne de l'humanité. Qui rappelle ce que sa tante disait souvent. Elle disait ils sont tous partis sauf moi. Parce que forcément,
c'est vrai, ben oui,
avec quand on a une telle longévité. Donc elle disait ils sont tous partis sauf moi. Pourquoi moi? Donc c'est assez émouvant.
Ouais. Alors, vous imaginez si elle avait un viager, elle.
Ah oui, non, là, normalement, elle enterre son.
Elle enterre tout le monde,
là, c'est terrible. Voilà. Alors, on va quand même maintenant parler de la fameuse Emma Moreno.
Voilà.
La nouvelle doyenne de l'humanité. Alors, il faut savoir, puisque après tout, on est dans une émission geek et que les nouveaux modes d'alimentation ne sont pas éloignés des préoccupations de la geekitude. Donc, Emma Moreno a un régime alimentaire qui est très particulier, puisque dans son existence, elle a consommé 100 000 œufs.
100 000 œufs?
Oui. C'est-à-dire qu'à l'âge de...
Mais pourquoi? Quelqu'un les a comptés?
Oui, parce qu'elle les mangeait d'un rythme très régulier.
Ah oui, d'accord, depuis toujours.
Donc c'était très facile de les
calculer, oui.
Oui, tout à fait. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 20 ans, elle souffrait d'anémie. Donc son médecin lui a prescrit 2 œufs crus et 1 autre cuit tous les matins, et elle a conservé cette habitude alimentaire pendant les 90 années suivantes.
Non, c'est pas vrai. Elle mange 3 œufs par jour.
Oui, tout à fait. Pourtant,
c'est pas bon ça. Voilà. Trois œufs, ça.
Non, alors apparemment, elle a maintenant
pour le cholestérol, je crois que c'est pas terrible.
Elle a quand même apparemment arrêté, puisque si je compte bien,
90 plus 20, ça fait 110.
Ça fait 110. Donc ça fait 6 ans que Madame Moreno ne mange plus 3 œufs par jour.
Ouais, mais enfin, jusqu'à 110, c'est quand même pas mal.
Alors, il faut quand même dire qu'il y a des facteurs déterminants. Hein, on dit sur le régime alimentaire,
facteur génétique, je pense quand même aussi qu'il joue un peu, non?
Légèrement. Pour vous dire, sa maman est morte à 91 ans et l'une de ses sœurs s'est éteint, la pauvre, à l'âge de 107 ans.
Ah oui, d'accord. Ouais. Donc c'est un peu un sport familial, quoi, le fait de vivre longtemps.
C'est un sport familial et c'est aussi, il faut bien le dire, un sport féminin.
Mesdames, vous êtes vraiment avantagées par rapport à nous.
Donc dans le top 10 recensé par l'éminent Gerontology Research Group, qui porte bien son nom.
Cela dit,
je vous fais pas l'article sur l'activité de cet organisme. Ouais. Donc il y a donc
sur les 10 personnes les plus vieilles du monde,
il y a que des femmes.
Non, c'est pas vrai. Il y a pas un petit homme caché quelque part.
C'est intéressant parce qu'il y a que des femmes, dont 3 italiennes.
Ah.
4 japonaises,
oui.
Une française, une jamaïcaine, et une espagnole. Et dans ce classement, le premier homme, qui s'appelle Israël Cristal,
c'est sympa,
est âgé de 112 ans, et il est né en Russie, et il n'est qu'en 27e position.
27e.
Donc il y a 26 femmes plus âgées que l'homme le plus âgé.
Mais ce qui est confirmé quand on voit l'espérance de vie, l'écart d'espérance de vie qu'il y a entre les hommes et les femmes. Hein. Les femmes, vivent beaucoup plus longtemps que les hommes.
Absolument.
Bon, Antoine, bravo. Espérons qu'on arrive à cet âge-là. Je ne sais pas. Vous mangez 3 œufs par jour?
Mais j'ai commencé. Normalement, en ayant commencé à mon âge, peut-être que ça, je ne tiendrai que jusqu'à 114 ans. Mais bon.
Petit joueur. Voilà. voilà, cet atelier est terminé. Merci de nous avoir suivis comme chaque samedi. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, 16h-18h. Portez-vous bien.